Je m'appelle Jean-Luc et je vais vous présenter un livre écrit par Valentine Gobi, L'île haute. Alors, c'est une histoire d'un enfant qui, pendant la guerre, va se retrouver à fuir Paris pour pouvoir... il est d'origine juive, évidemment, et il va falloir qu'il se mette dans un endroit tranquille, loin des conflits, et ça sera en montagne. L'île haute, c'est le récit initiatique d'une absolue première fois, d'une découverte impensable, somptueux roman paysage qui emplit le regard jusqu'à l'irradier d'humilité et d'humanité. Images et perceptions qui nous traversent comme autant d'émotions et nous élèvent vers ces ailleurs bouleversants, ces montagnes dont la démesure change et libère les hommes et sauve un enfant. Je vais donc vous présenter son arrivée dans la montagne. Il monte en file lente, espacée derrière d'autres silhouettes, elles aussi descendues du train. Ça ressemble à une petite route, un ruban sinueux parmi les arbres, où il creuse une trace dans la trace précédente, quasi évanouie. Vadim fixe ses chaussures, s'applique à se caler dans l'empreinte de l'homme avant qu'elle s'effondre. Il monte haut ses genoux pour s'extirper de la neige. Il appuie ferme ses plantes de pied, accroche le sol en dépit de ses godasses de clown, les bras en balancier. Il entend le crissement de feutre sous ses semelles et sous les semelles de l'homme. Il cale son pas sur son pas, son souffle sur son souffle, son cœur bat grave comme un battement de cloche. Ils montent, encordés l'un à l'autre par le tempo de la marche, tandis que la neige les recouvre. Autour, Vadim devine des gouffres, des plissements, des reliefs. Il a le pressentiment des caches, des refuges et des pièges. Il emprunte, sans le savoir, des chemins de fuite et de contrebande. Il perçoit du mystère dans ce décor sans cesse dérobé à la vue. À un moment, au loin, un sifflement fend le silence. Le train s'ébranle dans la vallée. Alors, le voilà maintenant à apprendre à skier. Ça se mérite, hein ? À Chamonix, il y a des téléskis qui te remontent en haut des pistes. Mais on dame, l'air de rien, et on glissera plus vite. Je vais quand même te montrer le triangle. C'est plus chic que les cabrioles. Une fois sur le talus, elle écarte les skis, prend les siens en étau et se colle doucement à lui. Ils emboîtent leurs spatules. Ils vont traverser la pente dans sa largeur à petite vitesse. Il sent ses mains fermées sur sa taille, son ventre contre son dos, un léger renflement. Elle pousse sur les bâtons. Il trace un long sillon dans la neige. « Maintenant, appuie fort sur les skis, elle dit. Vers l'intérieur, voilà !» Et elle presse en écho les hanches du garçon. Il tombe évidemment, recommence, couture le champ de longs zigzags tandis que la lumière jaunit du côté de Bérard. 10 fois, il remonte, des ruisseaux de sueur imprègnent leurs chemises. Il grelotte, Vincent n'a pas doué pour s'arrêter, c'est sûr, mais peut-être aussi, ne fait-il pas d'effort, pour le plaisir de s'affaler contre Blanche. Il sent sa sueur légère sous la laine et le savon noir. Il éprouve le moelleux de son ventre, de sa poitrine, quand il chute. Il neige continuellement, tellement qu'on ne distingue plus de vallées, de versants, de montagnes. La maison est une île, une forme solide et stable, érigée au milieu du blanc. Depuis des jours, il neige, un écran mat, brouillé de cousses, tient lieu de paysage. La nuit, la lumière filtre au dehors par les interstices du tissu et trace des diagonales drues à travers l'air blanc. On dirait les rayons obliques, surnaturels, qui fendent les gravures de Gustave Doré. Il neige le jour, il neige la nuit, entre le matin et le soir. Éloi pèle 4 fois par jour pour dégager devant la porte le passage qui ne cesse de se refermer. Seuls ces « han » et les coups de pelle fendent la silhouette ouatée. On entend parfois, en écho, des voix d'hommes, des voix sans corps, car le corps sont gommés par la couche. Seuls les coups de pelle suggèrent des bras quelque part, des jambes bien campées, des dos ployés par l'effort. C'est le père de Moinette, peut-être, un de ses frères ou bien d'autres qui pèlent aussi. Depuis des fenêtres de la pièce commune, Vincent regarde la neige tomber, écoute les hommes lutter contre l'ensevelissement. Au Ciseret, une coulée a cerné les maisons, si haut qu'on sort par l'étage. Et c'est Abel Dunant qui l'a dit à Vincent ce matin, à la messe. « Je suis parti par la fenêtre de ma chambre. Il n'y aura pas de vêpres, a décidé l'abbé Payot. C'est trop dangereux de revenir au clos. » Et le printemps avance, le vert gagne partout, toutes les sortes de verts. La lumière découpe la vallée, les versants en verts contradictoires, langues dorées, émeraudes, presque noires et changeantes, selon l'heure, la hauteur du soleil. Vincent contemple ce nuancier fluctuant qu'éclaircissent ou foncent tour à tour les crêtes, les pics et les nuages. Les larses ont des aiguilles neuves, plus claires que celles des sapins. Au bout des branches des sapins poussent des bourgeons quasi jaunes. Les orties vertes, mentes, pullulent autour des tas de fumier, se couvrent de myriades de chenilles. L'herbe chatoie de reflets bleutés, des pluies accablantes la ravivent tous les deux ou trois jours. « C'est bon pour les foins, dit Louis, quand Vincent revient trempé de l'école et des prés. » Ça l'étonne, lui, que la saison progresse, malgré l'absence de Blanche, qu'elle ne l'attende pas. Valorcine sans Blanche, ça n'a pas existé. Il voit le trou dans le décor. Les populages jaunes d'or fleurissent en massif près de l'eau, comme si de rien n'était. Les buissons de myrtilles se couvrent de baies roses. Les myosotis jaillissent contre les bassins. Rouquine les happe en une bouchée. Les crocus font des feuilles. Les tacounets font des feuilles, les saules font des feuilles, tout d'un vert singulier. Il sait maintenant que les rochers des sexes blancs ne sont pas blancs, les aiguilles rouges, pas rouges, les aiguilles vertes, pas vertes, que l'eau noire n'est pas noire. Il connaît les couleurs et les formes réelles, les proportions et les volumes. Il a vécu 1000 premières fois en quelques semaines, 1000 premières fleurs, arbres, feuilles, fougères, 1000 premiers lichens, oiseaux et bêtes terrestres, textures de rochers, couleurs, nuances et reflets, autant d'épiphanies qui ont eu raison des conjectures. Il n'y a plus rien à deviner. À quoi bon dessiner ce qui est visible ? Chaque jour, le paysage se précise et répond à toutes les questions, même celles qu'il ne formule pas.